Maïwori Campus, j'accueille aujourd'hui deux chefs d'entreprise guyanais, à savoir Kevin Juste, vous êtes gérant et fondateur de Leaderphone. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci d'abord de m'avoir invité. Et effectivement, je suis gérant de la boutique Leaderphone située à Cayenne.
Parfait. Et puis, j'accueille également M. Eddy Chalco. Vous êtes restaurateur. Bonjour.
Bonjour. Merci. Merci de nous avoir invités, qui nous permet de parler aujourd'hui.
Alors, Kevin, juste comment a débuté cette expérience d'entrepreneur? Depuis quand existe maintenant Leaderphone?
Leaderphone est né il y a maintenant un an. Mais c'est une idée qui a mûri dans ma tête depuis plus de 3 ans, on va dire. De base, j'avais pour projet d'être mon propre patron, donc créer ma propre société. Par le pur hasard, je suis rentré dans le domaine de la téléphonie mobile, juste après mon BTS Management des unités commerciales à Toulouse. De base, j'étais rentré à Cayenne pour des vacances, mais au final, on m'a proposé un CDI dans une boutique de téléphonie mobile. J'ai accepté.
Ça n'a pas fonctionné.
C'est-à-dire.
Vous êtes resté combien de temps dans cette boutique?
3 ans quand même. Hein.
Ah d'accord.
Okay. 3-4 ans, ouais, 3-4 ans. J'étais un très bon élément et j'ai vu comment fonctionnait un peu le marché, comment fonctionnait le secteur sur le marché, pardon. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas investir dedans.
Très bien. Donc, vous êtes revenu au pays il n'y a pas si longtemps que cela.
C'est ça.
Et la question s'est posée de savoir si vous restiez en métropole ou si...
Non, pas forcément. Le but était déjà de rentrer en Guyane, mais dans l'immédiat, non. Après mon BTS, ce n'était pas forcément l'idée. Mais j'ai eu l'opportunité, je me suis dit bon.
Et vous l'avez saisi.
Je l'ai saisi et ça a payé, on va dire.
Parfait, on verra tout à l'heure ce que vous proposez, ce que vous faites.
Pas de souci.
Plus en détail, alors Chalco, Eddy, vous êtes dans la restauration. Pareil, même question, depuis quand vous avez lancé votre affaire?
Alors moi j'ai commencé à l'année 2017. Donc en 2016 j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je faisais tout ce qui était viennoiserie, gâteau créole, donc tout ce qui est dizimilier, tarte à la crème, les choses comme ça, et les gâteaux d'anniversaire. Et ensuite donc je vendais dans les marchés un peu partout. Et ensuite en 2018 j'ai eu l'occasion de trouver un local. Donc j'ai ouvert ma société actuelle qui s'appelle Chalzi. Et donc ça va faire bien, ça fait 3 ans, en janvier ça fera 4 ans que je suis sur le marché et que je me bats pour faire en sorte que mon restaurant tienne le coup par rapport à tout ce qui est coronavirus, des choses comme ça.
Oui, avec les couvre-feux, les confinements, les restrictions sanitaires, malgré tout, vous faites des livraisons ou pas?
Alors, j'ai essayé la livraison pendant un petit moment. Faut dire que la livraison, c'est assez délicat parce que moi, je suis situé sur la zone Galmo. Donc, faut dire qu'à midi, partout est bloqué. C'est pratiquement impossible de circuler. Donc, à part avoir un 2 euros, donc c'est sur ça que je pense d'ici l'année prochaine, je vais investir pour faire des livraisons. Sinon, ce ne sera pas intéressant pour le client d'attendre 45 minutes pour un repas, des choses comme ça. Donc je préfère bien faire les choses que commencer quelque chose et le mal le faire. Donc je patiente un peu pour que ça soit mieux fait.
Vous allez franchir bientôt la barre fatidique des 5 ans. Le plus dur est derrière vous?
Vous savez, si j'arrive à tenir le coup jusqu'à la fin du coronavirus...
Ça sera déjà pas mal.
Donc voilà, ce serait déjà pas mal. Donc on verra déjà la 4e année. Et ensuite, on verra pour la 5e année, c'est qu'on fera si on se développera ou si on sera obligé de fermer. Mais je pense que ce sera plus dans le développement. Enfin, pour moi, je vise plus le développement.
Vous restez optimiste, vous gardez le moral.
Exactement.
Positif. Vous êtes sur un marché très concurrentiel. Ça semble peut-être facile pour les entrepreneurs en herbe de se dire je vais me lancer dans l'alimentation, dans la restauration. Malgré tout, est-ce que cela demande une vraie technicité, de réelles connaissances, à la fois en termes de management, au niveau du métier lui-même, et de savoir-faire aussi, et puis arriver à se différencier par rapport à l'offre qui est proposée sur le marché.
Alors, étant donné que je suis aussi, je suis aussi sur la liste de Monsieur Osseux, donc le président actuel de la chambre de métier. Donc, c'est-à-dire que justement, on travaille déjà dessus. Et il faut savoir que le domaine de la restauration est l'un des domaines où on ouvre le plus de sociétés en Guyane.
Oui, on s'en doutait.
Donc, mais en contrepartie, c'est l'un des domaines aussi qui a le plus de fermetures. Donc, ça veut dire qu'il y a, comme vous dites, énormément de personnes qui pensent que la restauration est facile, étant donné que, bon, comme on dit, tout le monde peut faire à manger, mais ce n'est pas tout le monde qui peut bien faire à manger. Et il faut savoir qu'il y a le service, il y a la façon d'accueillir le client, il y a l'endroit où vous allez accueillir le client. Il y a énormément de choses derrière qu'on ne pense pas tant qu'on n'a pas été dans le métier, en fait. Donc, avant d'ouvrir un restaurant, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'aller un peu partout, comme moi je l'ai fait. Hein. J'ai arrêté l'école à l'âge de 14 ans. Et je suis allé travailler un peu partout. J'ai fait une formation au CFA de Guyane, justement, qui m'a permis de voir comment ça se passait dans les autres enseignes, et qui me permet aujourd'hui de pouvoir tenir avec ma société. Et c'est aussi, comme Kevin l'a dit, c'est beaucoup du marketing par rapport au réseau, par rapport au bouche à oreille, qui fait qu'on a une certaine clientèle qui nous permet aujourd'hui de tenir malgré toutes les problématiques qu'il y a.
Quelle est votre enseigne ?
Chaldi.
D'accord. Kevin, juste, vous êtes lancé dans la téléphonie, dans les nouvelles technologies, dans l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre offre, de ce que vous faites de la réparation ? Vous vendez également des téléphones, j'imagine ?
C'est ça. Ben, au début, j'ai commencé avec de la réparation et la vente de quelques accessoires. Donc, j'ai essayé d'être un peu le moins cher sur le marché afin d'attirer de la clientèle. Avec la crise actuelle, je pense que les clients, ils essayent de trouver un peu le moins cher. Mmh. Donc, c'était ça l'idée. Et là, maintenant, j'essaye un peu de me développer en mettant de plus en plus de téléphones en vente, notamment avec les derniers iPhones, là, avec les iPhone 13. Et voilà.
Alors, comment peut-on justement être une alternative quand on a un business dans la téléphonie face à des compagnies de téléphone qui proposent également des appareils, des Android, des iPhone, etc.
En termes de prix, je pense en réduisant les équipes. Comme j'ai démarré seul, donc j'avais personne à payer, on va dire. Moi-même non plus, je n'avais pas de rémunération au début.
Oui.
Fallait se serrer la ceinture.
Bien sûr.
Et du coup, ça me permettait de réduire les coûts. Voilà.
Et est-ce que vous avez dû faire également peut-être une sélection dans votre offre de téléphone par rapport à ce qu'on peut trouver chez Orange ou chez Digicel?
Oui, je me suis plus focalisé sur les téléphones qui se font le plus en Guyane, donc à savoir les iPhone et les Samsung.
C'est vrai. Et vous, aujourd'hui, comment, en palpant le marché, que ce soit à Cayenne, dans l'Ouest, comment analysez-vous le marché en Guyane au niveau de la téléphonie?
Moi, je trouve que c'est un marché très porteur.
Il est ouvert, il est dynamique.
Il est très dynamique parce que ça se voit, il y a de plus en plus de sociétés qui s'ouvrent dans le domaine. Je pense que c'est un marché très porteur. Les jeunes, ils ont de plus en plus de téléphones assez tôt. Nous, à l'âge de 15-14 ans, on n'avait pas forcément de téléphone. Maintenant, ils ont les derniers iPhones. Donc ce qui fait que il y a de quoi faire.
Est-ce que vous proposez également des garanties
Oui, bien sûr.
Oui, d'accord.
Bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pourriez amener de plus par rapport aux concurrents? Est-ce que vous pourriez faire de la livraison aussi? Est-ce que vous pensez ouvrir un site e-commerce pour vendre en ligne?
Oui,
ce sont des pistes de développement que vous avez.
Oui, c'est l'idée. C'était déjà l'idée dès le départ d'ouvrir un site internet. Mais étant seul et sans équipe, c'était un peu compliqué de jongler avec les deux. Mm-hmm. Donc c'est une idée que j'ai mis en stand-by pour le moment. Mais c'est en courant, oui.
Et pour vous, Eddy Chalko, quelle est la place du numérique dans votre business? Est-ce que vous avez une page Facebook, une page sur Instagram? Est-ce que vous y passez du temps sur le net? Est-ce que vous pensez que ça peut être un moteur pour vous, un levier?
Alors, c'est pas penser, c'est obligatoire. Hein, parce que moi, par exemple, mes menus, je les mets tous les jours sur mon réseau Instagram, Snapchat, Facebook et aussi WhatsApp. Donc il faut dire que le client, en fait, il attend de savoir qu'est-ce qu'on va proposer. Et donc on est obligé de le faire. Étant donné même maintenant, hein, il n'y a plus d'âge. Hein. Avant, on pouvait dire ouais, c'était plus les jeunes qui étaient sur les réseaux. Maintenant, c'est totalement faux. Hein. Même j'ai des clients qui ont 60 ans, 70 ans même. Qui me demandent, qui m'ont dit ah, aujourd'hui j'ai pas vu le menu sur le statut, à quelle heure ça sort, donc ils attendent de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Donc oui, c'est quelque chose qui est très très primordial, étant donné que ça permet aussi de créer une certaine communauté et de savoir à peu près par rapport aussi à nos chiffres quel pourcentage de clients on touche, quel âge on touche. C'est très important, en fait. C'est énormément important et ça nous permet aussi de nous développer, de faire des jeux concours. Comme là aujourd'hui, j'ai demandé à mes followers est-ce que ça les intéresserait de faire un jeu concours ou pas. Donc s'ils sont pour le positif, on le fera. Si ça leur dit non, on ne le fera pas. Donc c'est aussi ça aussi qui permet de tout ce qui est marketing. Avant, on faisait une pub comme ça. On ne savait pas si ça allait marcher. Maintenant, on demande directement aux clients, par exemple, qu'est-ce que vous aurez voulu en plus? Et là, directement, ils répondent. Par exemple, moi, il y a peut-être un an de ça, je ne faisais pas obligatoirement des 10 000. Maintenant, c'est mon top vente. C'est-à-dire que...
C'est la question que j'allais vous poser, d'ailleurs.
Exactement, c'est mon top vente. Avant, je pouvais en faire une dizaine par jour. Maintenant, je suis passé à 80 par jour, 80, 90. Donc c'est vraiment quelque chose, et c'est aussi le bouche-oreille, les clients qui disent « Ah, j'ai goûté des Emilie chez Chaldi, il faudrait que tu aies goûté ». Donc les clients, dès qu'ils viennent chez moi, ils me disent « On m'a entendu parler de vos petits Emilie, je veux goûter ». Donc c'est comme ça, c'est exactement ce qu'ils disaient, c'est un travail non-stop. Donc c'est ça, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de savoir tout de suite si les clients apprécient ou pas. Donc c'est ça aussi le côté positif d'internet, c'est que exactement le client, par exemple, qui va venir ce matin, qui va acheter quelque chose, s'il aime, il va directement mettre sur son réseau, il va nous notifier, il va dire j'ai acheté ça chez Chaldi, c'est super bon. Ou au contraire, s'il n'a pas aimé, directement aussi, il va mettre j'ai acheté ça chez Chaldi, c'est pas bon, n'allez pas là-bas. Bon, voilà, c'est dans les deux sens.
Et qu'est-ce que vous pouvez offrir aux auditeurs de Radio Mayuri Campus ou aux internautes qui nous regardent sur le live?
Ben justement, ben comme je le disais, maintenant qu'on est là aujourd'hui, donc je comptais faire un jeu concours. Donc on pourra
carrément.
Faire... Oui, on pourra faire un jeu concours avec Mayuri Campus, savoir s'il y a des clients, je sais pas, si dans la semaine on peut en discuter, faire gagner des repas ou faire gagner des desserts, des choses intéressantes, quoi.
Très bien. Vous êtes spécialisé dans la cuisine guyanaise?
Exactement. Alors, comme a dit Kevin, moi, c'est un projet que j'avais en tête depuis plus de 10 ans, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la cuisine créole guyanaise est un peu en perdition, dans le sens où j'avais des amis qui venaient des fois de France et qui me disaient « j'ai envie de manger créole, où est-ce que je peux aller manger ?» Et là, je me disais « mais mince, à part s'ils viennent chez moi et que je fasse un repas, où est-ce qu'ils peuvent aller manger un bon poulet boucané, un poisson frit lentille ? Dans quel restaurant À part les restaurants, il y en a peut-être 3, 4, 5 sur la place, c'est tout. Donc quand ils viennent en Guyane, ils me disent aujourd'hui ils sont dénigrés, mais aujourd'hui on a mangé chinois. Demain on a mangé chinois. Après demain on a mangé. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé. Et puis voilà. Mais après, comme dit Kevin, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est le personnel, vu qu'on est un peu au départ du lancement. Donc on ne peut pas proposer énormément de choses. Puisqu'il faut avoir les moyens, le financement, comme je dis, moi je préfère commencer petit pour bien faire les choses et ensuite développer petit à petit, pour ensuite franchement développer tout ce qui est, par exemple la viande bois, c'est énormément de personnes demandent de manger de la viande bois et tout, mais il faut savoir que
c'est interdit, non?
Non, ça dépend de la viande.
Okay.
Ça dépend de la viande. Si par exemple vous me parlez du jaguar, oui. Si vous me parlez des hokos, des choses comme ça, oui. Mais par exemple le cochon bois, on peut
en trouver.
L'agouti aussi, ce sont des choses. C'est comme le lézard. Les lézards aussi, on peut, mais à une certaine période seulement. Donc on a des droits qu'on peut exploiter. Donc c'est très intéressant de savoir à quel moment je pourrais l'exploiter. Mais c'est en réflexion.
Alors, vous, Kevin, juste, vous avez compris le bénéfice des réseaux sociaux et du numérique en général, puisque vous êtes sur LinkedIn et peut-être sur d'autres réseaux également.
C'est ça, je suis sur Instagram et Facebook. Et j'ai vraiment subi l'ampleur du numérique par rapport à mon domaine. Notamment, quand on est en phase de lancement, c'est très primordial. C'est pour ça, dès le début, j'avais mis en place des jeux concours afin d'attirer de plus en plus de followers. Là, au bout d'un an, je suis déjà à presque 4000 followers sur Instagram, ce qui n'est
très
pas
bien.
Négligeable. Donc, dès qu'on sort un flyer ou une nouvelle promotion, ça touche pas mal de monde et ça permet d'attirer un peu la clientèle à la boutique.
Qui sont vos clients sont plus des jeunes, des adultes d'un certain âge?
On a un peu de tout. Ce matin, on était à Pôle emploi pour parler un peu de notre parcours. Et il y avait une dame de l'ADI qui était une cliente à moi et je ne l'avais pas reconnue. C'est après, elle m'a dit « Ah, mais je suis passé chez vous déjà ». Donc, il y a un peu, toute génération.
Et quels sont les établissements que vous avez fréquentés en Guyane avant de partir en métropole pour suivre vos études?
J'étais au lycée Félix Eboué. Donc j'ai fait tout le lycée là-bas. J'avais entamé un BTS assistant de gestion, BTS qui ne m'a pas trop plu.
Donc, vous n'avez pas été au bout?
Ouais, j'ai pas été au bout. Donc après, l'année d'après, je me suis inscrit à l'université. L'université, c'est un peu compliqué, on est lâché dans la nature, on va dire. Il faut être motivé et aimer ce qu'on fait.
C'est ça, c'est vrai.
Donc c'était assez compliqué également. Donc,
ça demande de l'autonomie.
Voilà, exactement. C'est ça. Donc du coup, c'était un peu un échec également. Donc après, je me suis redirigé sur admission post-bac, pardon.
Ouais.
Et du coup, j'avais postulé un peu partout en France, à Lyon, Paris, Toulouse. Je m'étais quand même réinscrit à l'université, quand même, au cas où, pour ne pas rester sans rien. Pendant ma semaine de cours, je reçois une notification me disant que j'ai été accepté à Toulouse, ville que je ne connais pas, où je n'ai pas de famille, j'ai rien. Donc je me suis dit, bon là, il faut que j'en parle à mes parents. Ma mère, je sais que c'est une maman poule, entre guillemets, donc elle était très réticente. Pour mon père, c'était « vas-y, hein, lance-toi ».
Ouais.
Donc du coup, j'ai été accepté le jeudi, et le dimanche, j'étais dans l'avion pour Toulouse et j'ai commencé les cours le lundi pour faire ma formation de BTS Management des unités commerciales. Et au final, je l'ai eu et après, je suis rentré à Cayenne.
Donc pour trouver un logement, c'était pas trop compliqué?
Pardon?
Sur Toulouse, pour trouver un logement, c'était pas trop compliqué?
Plus ou moins. Comme à la période où je suis parti, j'ai eu des amis qui sont partis, donc ils m'ont hébergé quelques mois, on va dire, le temps de trouver mon logement. Mais après, ça a été. C'était plus le climat, il fallait s'adapter. C'était la première fois que je partais. C'était ça.
Il y a quand même une forte population
anti-Oulianaise.
Sur Toulouse.
C'est ça.
Ça se sait.
Donc on n'est pas trop dépaysé.
Absolument, tout à fait. Alors, Eddy Chalko, vous avez quitté l'école à 14 ans. Et c'est un bon témoignage pour les Guyanais qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est qu'on peut avoir quitté l'école tôt et réussir quand même sa vie. Et dans sa vie.
Oui, alors ça tombe bien parce que moi j'ai un fils qui est rentré à l'école cette année et qui a fait une bêtise dernièrement à l'école, et j'étais obligé de lui dire: papa n'a pas fait de bêtise à l'école, donc il faut montrer l'exemple. Alors que pas du tout, l'école ça a pas du tout été fait pour moi. J'étais tout le temps, j'étais le terrible de l'école, même pas de la classe, de l'école. Donc j'avais soit un choix, soit faire... Alors mon premier choix, c'est comique, c'était la carrosserie, parce que mon père était carrossier.
D'accord.
Donc le choix qu'on m'a proposé, donc quand je suis allé à Michotte, on m'a dit: tu es jeune, tu peux redoubler pour faire de la carrosserie.
D'accord.
Donc je me suis dit non, par contre, je ne vais pas refaire un an de troisième, tout sauf ça. Donc par la suite, faut dire que c'est plus ma mère qui m'a orienté vers la cuisine, parce qu'elle savait que j'aimais cuisiner. Donc, elle avait recherché un peu partout. Elle m'a dit: mais pourquoi tu ne vas pas au CFA? Donc, j'ai dit: le CFA, je ne sais pas trop. Donc, je suis allé. Et en fait, ils venaient d'ouvrir une formation en boucherie charcuterie traiteur. Donc, j'étais quand même le plus jeune de la classe. Hein. Le plus grand avait 27 ans. Donc, c'était un peu folklorique, mais j'ai su m'imposer. Donc, j'ai fait ma formation. J'ai eu mon CAP en boucherie. Ensuite, un bac pro boucherie charcuterie traiteur. Ensuite, par la suite, je suis parti en France un peu comme lui. Hein. J'ai fait mes démarches et tout pour continuer mes études. Donc, j'ai trouvé un patron en août. Il m'a dit: est-ce que tu peux être là lundi? Je lui ai dit: je suis un peu en Guyane. Donc, il m'a appelé le mercredi. Il m'a dit: est-ce que tu peux être là lundi prochain? Je lui ai dit: je suis un peu en Guyane, c'est un peu compliqué. Il m'a dit: ah, bon, d'accord. Donc, quand j'ai dit ça à ma mère, ma mère m'a dit: non, faut que tu prends l'avion, on y va, on va voir au cas où d'autres patrons et tout. Donc je suis arrivé en France, plus précisément en Gerville, donc c'est la maison Pavard, c'est une maison qui a plus de 400 ans d'existence, hein. Donc c'était vraiment une maison où il y avait un savoir-faire qui était quand même pas mal. Et à l'époque, il avait gagné le meilleur jambon de Paris. Donc j'ai pu apprendre pas mal de choses, donc c'est comme ça, je suis parti sur un coup de tête. J'ai fait un an de formation là-bas, et ensuite j'ai décidé de rentrer au pays parce que bon, la France c'était pas fait pour moi, j'aime pas le froid, les choses comme ça et tout. Et donc je suis rentré au pays, et en rentrant au pays, j'ai fait face à la vérité des choses.
C'est-à-dire
dans le sens où quand je suis rentré au pays, j'ai voulu trouver du travail, et je trouvais pas. Ou sinon, je trouvais, mais au SMIG. Et je me suis dit, j'ai pas pu faire 4 ans d'études, 4-5 ans d'études pour finir à 1200 euros. Quoi. Donc, on m'a dit, ah, mais ici, vous êtes en Guyane, ici, c'est pas la France. Donc, quand on m'a sorti ça,
j'ai dit, souvent, bon, oui, malheureusement.
Ok, ben, y a pas de souci. J'ai quand même décidé d'aller travailler un peu partout, comme je vous ai dit, pour prendre connaissance des problématiques dans la restauration et des choses comme ça, en provision d'ouvrir ma société. Donc au bout de un an, deux ans, j'ai démissionné, j'ai commencé à faire mes petits gâteaux chez moi, mes petits trucs et tout, pour voir s'il y avait une possibilité d'eux. Et ensuite, il y a une continuité des clients qui ont fait que j'ai pu ouvrir ma société.
Vous avez beaucoup de mérite, puisque l'apprentissage que vous avez fait en France correspondait en rien à ce que vous développez en Guyane, c'est-à-dire la cuisine au fait que vous faites.
Alors,
en Guyane,
ça fait quand même partie du même secteur, puisque c'est du traiteur et de la pâtisserie.
D'accord.
Donc, faut dire aussi que je m'étais inscrit au CAPQ pâtisserie.
Okay.
Mais le problème, c'est que quand je me suis inscrit au CAP pâtisserie, l'employeur que j'ai trouvé m'a dit: t'as rien à foutre, t'as rien à faire à l'école encore, tu sais déjà tout faire, je vois pas pourquoi tu veux continuer ton CAP. Donc je t'engage tout de suite en tant que chef traiteur, et puis c'est toi qui vois. Okay. Donc, en tant que jeune, à l'époque, je devais avoir 18 ans. En tant que jeune, j'ai signé, j'ai sauté tout de suite sur l'affaire. Et que, ensuite, j'ai été chef traiteur et tout. Donc, après, par la suite, je n'ai pas validé mon diplôme. Parce que justement, je trouvais que ça servait à rien. Aujourd'hui, avec le recul, je regrette un peu parce que c'est quand même un diplôme en plus. Mmh. Donc, peut-être par la suite, je vais le repasser, mais voilà.
Alors, pour clore cet entretien, j'aimerais que l'on parle d'un aspect qui peut intéresser nos auditeurs. Ce sont vos installations respectives en termes de financement. De local, comment cette expérience vous l'avez vécue, Kevin Just?
C'est assez compliqué en Guyane, hein. Bah, oui. C'est assez compliqué pour trouver un local. En fait, faut avoir les moyens. Pour se lancer, il faut avoir les moyens, et chose que tout jeune n'a pas forcément.
Ouais.
Donc, faut soit avoir les moyens, soit être débrouillard comme nous on l'a été, on va dire.
Vous aviez des économies, donc vous pouviez...
C'est ça, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pendant 3-4 ans en CDI, ouais. J'ai été responsable de boutique, donc j'ai pu un peu mettre de côté pour mon projet, pour mon projet, donc ce qui a fait que j'ai pu investir, on va dire.
Vous n'avez pas eu besoin de prêter d'argent?
Non, ça va.
Ok. Et pour vous, Eddy Chalko?
C'est un peu la même chose, hein, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai été aidé beaucoup par mes parents. Bon, jusqu'à présent, ils sont derrière moi. Mmh. Dans le sens où eux, ils ont été chefs d'entreprise et tout. Donc, moi, quand je suis allé voir mon père et que je lui ai dit que je voulais être chef d'entreprise, il m'a dit jamais tu seras chef d'entreprise, c'est trop bordélique. Donc, à force de voir que c'est ce que je voulais faire et tout, donc un jour, il m'a dit tu montes un dossier, tu me fais un business plan et tout, et puis après, je vais voir si je vais t'aider. J'ai monté le dossier, j'ai fait le business, mais il m'a dit, je t'aide pas. Donc ma mère qui a vu ça m'a dit, bon, tu sais quoi, Thibaut, je parle en créole, Mokébato 100 euros, qui est 100 euros sitôt l'été qui est arrivé. Ben, elle m'a donné 100 euros, avec 100 euros, j'ai fait 200, avec 200, j'ai fait 300, avec 300, j'ai fait 400.
Chapeau.
Et ainsi de suite, et aujourd'hui, j'ai ma société. Donc voilà, et avec la détermination, ben, on arrive où on veut y arriver. Et même si ça va prendre du temps, il ne faut pas croire que... En un seul coup, on peut réussir, c'est faux.
C'est bon d'entendre
et
ça.
Et donc, c'est comme ça, c'est comme il a dit, c'est avec beaucoup de détermination.
Ouais, c'est un vrai travail, voilà. C'est un travail quotidien.
C'est un travail quotidien, on ne compte pas nos heures.
Des fois,
on se parle en off, il est 23h, moi je suis dans ma cuisine, lui il est dans son travail, en train de travailler toujours. Donc voilà, bon, au moins ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul dans notre combat,
ouais.
Et c'est ce qui fait que ça nous donne plus de force d'aider d'autres jeunes à créer leur société pour qu'ils voient que la réalité des choses, en fait.
Oui, c'est de ce que vous me dites, ce qui sort, c'est le fait d'avoir un réseau de chefs d'entreprise, d'avoir des gens qui vous comprennent et des gens avec lesquels vous pouvez échanger de problématiques.
C'est exactement ça, dans le sens que même ce matin, par rapport à la sortie qu'on a fait à Pôle emploi, on a rencontré une jeune qui voudrait ouvrir un salon d'esthétique. Donc on lui a dit qu'on a déjà un réseau de jeunes qui travaillent. Par exemple, je vais en citer quelques-uns. On a Toucan Art qui fait de la signalétique. Donc c'est lui qui a fait ton logo aussi. Donc il a fait nos deux logos. Aujourd'hui, j'ai Kriakov, il fait de la signalétique aussi, mais lui c'est plus pour poser tout ce qui est les enseignes, des choses comme ça. J'ai travaillé avec lui. On a énormément de jeunes qui créent des sociétés, et ça arrive de plus en plus, en fait.
Oui, c'est vrai.
De plus en plus, et ça fait plaisir. Bon, certains, comme Belpère qui a créé sa société aussi. La dernière fois, je parlais avec lui et tout, et il nous laissait un petit mot, il nous disait c'est toi qui nous as montré l'exemple. J'ai dit non, c'est juste que...
Belpère étant la marque.
Voilà, c'est la marque Belpère. J'ai dit non, c'est au contraire, c'est nous tous qui allons montrer l'exemple et faire en sorte que d'autres jeunes voient qu'il y a des possibilités en Guyane et que on peut créer plein de choses, en fait. Il y a pas d'infini.
Très bien. Peut-être un dernier mot, Kevin, juste avant de nous séparer.
J'aimerais vous remercier pour l'invitation. On n'a pas forcément l'occasion de parler de soi au quotidien, et ça fait plaisir.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus jusque... jusqu'à Radio Mayouri Campus.
Merci à vous.
Je vous souhaite une très bonne continuation. Dans un instant, nous allons retrouver la suite de vos programmes sur Radio Mayouri Campus. Cet entretien est à retrouver en vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, également la chaîne YouTube de Radio Mayouri Campus, et bien évidemment en multidiffusion en radio sur Cayenne sur 107.6 et sur Saint-Laurent-du-Maroni sur 89.2. Merci messieurs et à bientôt.
Merci.
Merci à vous.